Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien dans Info Club Sandwich, votre quotidienne d'actualité locale et associative sur Radio Campus Amiens 87.7 FM, disponible sur le DAB+ et radiocampusamiens.fr. Aujourd'hui, je reçois William Tessier, médiateur culturel et chargé de communication au Ciné Saint-Leu. Il est venu nous parler du programme du mois d'avril-mai.
Bonjour William, comment tu vas ?
Bonjour, bien et toi ?
Ça va, super. Tu viens nous parler donc du programme du Ciné Saint-Leu du 17 avril au 14 mai. Alors, qu'est-ce qui s'y passe ? J'ai vu donc le 17 avril déjà, on commence bien.
Avec Laroy.
Avec Laroy.
Complètement.
Vas-y.
Si jamais vous êtes en manque de films des frères Coen, et ben en fait cette année, le nouveau bon film des frères Coen est là, mais pas réalisé par Ethan ou Joël. Réalisé par Shane Atkinson, un film qui avait fait sensation l'année dernière puisqu'il a été présenté à Deauville au Festival américain en septembre dernier. Et il était quand même reparti, c'est pas rien, avec trois prix, prix de la critique, prix du public et grand prix. Donc c'est un film qu'on attendait énormément et c'est vraiment, la comparaison avec les Coen, elle est peut-être un peu facile, mais c'est vraiment un polar. Un film aussi de personnes qui se retrouvent là, au mauvais endroit, au mauvais moment, des sortes de beaux losers finalement. Ça ressemble beaucoup au premier film des frères Coen, puisqu'en fait on a un personnage qui s'appelle Ray, qui découvre que sa femme le trompe, et du coup qui décide de mettre fin à ses jours, et va s'en suivre une sorte de péripétie avec des personnages très hauts en couleur, des personnes qui vont vouloir lui dire ben non en fait c'est pas toi qu'il faut buter, c'est ta femme pour t'avoir trompé, et puis d'autres qui vont intercepter comme ça dans la vie de ce pauvre mec qui finalement ne demande rien à personne si ce n'est d'être un peu tranquille et qui va se retrouver embarqué malgré lui dans un truc complètement farfelu et loufoque. Et voilà, on a rarement aussi des films comme ça au Ciné Saint-Leu, des films un peu américains, de genre, drôles. Donc voilà, on est très content de l'avoir en sortie nationale, puisque ce sera le cas pendant 3 semaines à l'affiche du Ciné Saint-Leu.
Ah oui,
voilà, vous avez un peu de temps pour venir le voir.
3 semaines, oui, c'est vrai qu'il ne reste pas aussi longtemps d'habitude les films.
Non, c'est ça. Mais quand c'est vrai que quand c'est des sorties nationales, quand on prend le film le jour de la sortie, on a toujours un suivi qui est un peu plus long que quand c'est des reprises ou quand on reprend des fois des films qui ont déjà été au Pathé ou dans d'autres cinémas proches de chez nous. Donc voilà, là, ce ne sera pas le cas, ce sera en exclusivité chez nous et on en est très content puisque pour les programmateurs, Boris et Angélique, c'est vraiment leur coup de cœur du mois. Donc voilà.
Bon, on va écouter leur coup de cœur alors. Le 18 avril, à 19h, il y a un ciné-conférence avec Metropolis.
C'est ça, on reproduit.
Film de 1927.
C'est ça.
Oh là là.
Fleuron de l'histoire du cinéma. Si vous êtes étudiant en cinéma, c'est forcément un film que vous avez étudié. Et en fait, on reproduit, on est très, très heureux de remettre ça en place avec Amiens Métropole dans le cadre du printemps de l'art déco, qui a déjà commencé d'ailleurs, où il y a déjà des visites un peu partout à Amiens et en métropole pour vous présenter des monuments, des œuvres art déco. Et du coup, comme tous les ans, on a une séance dédiée à cela. L'année dernière, c'était The Grand Budapest Hotel, qui était plus récent. Plus Wes Andersonien.
Ouais,
là, on va vraiment visiter un classique. Classique que peut-être vous n'avez jamais vu comme ceci, puisqu'en fait, c'est une version restaurée et intégrale. Pendant longtemps, en fait, on a vu un film tronqué de 2 heures, à peine 2 heures, si je dis pas de bêtises. Et donc là, c'est une version totale de 2h33 qu'on vous propose, okay. Qui en plus de ça, est restaurée en version 4K. Donc de ce grand classique de science-fiction de Fritz Lang dont on vous parle depuis quelque temps parce que finalement on avait présenté Blade Runner dans le cadre d'Amy Celiade en février dernier et Mélanie Thaubeau qui avait intervenu avait déjà fait la comparaison avec Metropolis puisque en fait Metropolis a influencé tout le cinéma de science-fiction qui a suivi surtout années 60, 70, 80. Donc voilà, si jamais vous avez découvert ces films-là en février dernier et que vous connaissez pas Metropolis, ben voilà, vous pouvez venir voir le film qui a vraiment inspiré tout ça. Et ce sera suivi d'une conférence, alors qui durera pas 1h30, on vous rassure, ça va pas être une séance de 4 heures qu'on vous propose, mais voilà, une bonne demi-heure. Donc ce sera une séance de 3 heures au total, animée par Carole Van Dorsel, qui est guide conférencière et qui avait déjà eu le plaisir d'intervenir l'année dernière après The Grand Budapest Hotel. Donc voilà, c'est un peu la séance somme qu'on vous propose de ce programme-là, à la fois culte et classique, puisque voilà, c'est encore une fois une œuvre qui a marqué vraiment l'histoire du cinéma et qu'on aura plaisir à découvrir ensemble dans cette version restaurée et intégrale.
Un film assez futuriste du coup, parce qu'on parle de 2026, il parle de 2026, donc on y est quand même.
Complètement, ouais. Puis moi, je sais que je l'ai vu il y a maintenant 10 ans et c'est dingue comme déjà en 1927, le film était comment dire, lucide sur ce qu'allait devenir la société, sur ce qu'un monde géré par des robots, par des intelligences artificielles. On en parle beaucoup en ce moment et aussi énormément dans le cinéma, puisqu'il y a eu cette grève historique l'année dernière des scénaristes américains contre l'utilisation des intelligences artificielles dans le processus de création. Et c'est dingue de voir à quel point Fritz Lang, quasiment 100 ans avant,
avait raison.
Perçoit des trucs, ouais, c'est assez malade. Mais on n'apprend jamais de nos erreurs, malheureusement.
Non, ou du moins, on met du temps.
Exactement.
Jamais assez aussi vite que la musique, malheureusement. Du 13 au 30 avril, il y a le Festival Cinéma Enfant, du coup. Qu'est-ce qu'on y passe alors ?
Alors du coup, c'est ça, peut-être que les plus grands d'entre vous, j'allais dire les adultes, mais les plus grands d'entre vous connaissent le Festival Télérama du mois de janvier, qui reprend beaucoup de classiques de l'année passée. Donc là, c'est le même principe, mais à destination du jeune public. Donc c'est 3,50€ la place pour toute la famille sur présentation pardon, du pass Télérama, qui est à retrouver soit dans le numéro en kiosque de Télérama, soit directement sur le site internet. Et du coup, c'est à la fois des avant-premières et des films classiques, donc de l'année dernière et certains même de un peu plus que ça, parce que malheureusement, il n'y a pas une offre jeune public non plus très conséquente d'année en année. Mais si jamais vous avez raté, par exemple, Le Royaume de Kensuke, qu'on a passé il y a maintenant quelques mois, il sera présenté pour deux séances. Également Sirocco et Le Royaume des Courants d'Air qu'on a eu à Noël, ou encore Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci qu'on a eu aux vacances de février. Voilà, la possibilité de revoir ou de re-revoir avec vos enfants ces films-là. On aura aussi le plaisir d'avoir en avant-première Pat et Matt, Un dernier tour de vis. On sait que vous aimez énormément Pat et Matt, donc c'est de la stop-motion muet à partir de 3 ans. Mon fils adore Pat et Matt. Donc voilà, les histoires de ces deux personnages-là qui vivent des péripéties, donc c'est des programmes de court-métrage vraiment adaptés pour les plus petits. Et on aura également deux séances un peu patrimoine avec Arrietty et le petit monde des chapardeurs des studios Ghibli, d'après un scénario de Hayao Miyazaki, qui est déjà, mine de rien, un film de 2010.
Arrietty, il est déjà sorti un
à presque 15 ans. Donc on a le plaisir de vous repasser, parce qu'on adore Ghibli et que voilà, on manque aucune occasion de le faire. Donc ça s'étend sur toutes les vacances d'avril et vous avez toute la programmation détaillée avec les horaires. Il y a tout plein de films dont je vous parle pas là, Gros Poids et Petit Poing, Les Petits Singuliers, Perdu Retrouvé, qui sont des films qu'on a déjà eu le plaisir de passer. Donc voilà, c'est à retrouver directement sur notre site internet avec à la fois les horaires et les détails des films. Et puis, pardon, je rebondis, parce que ça, du coup, il y aura deux films également durant ces vacances scolaires, mais qui ne font pas partie du Festival Télérama, puisque le Festival Télérama s'arrête le 30 avril. Mais le jeudi 2 et 3 mai, il y aura deux séances de La Naissance des Oasis, qui est un programme de court-métrage à partir de 4 ans. Et le 2 mai, à 10h, cette séance sera un peu spéciale, puisqu'elle sera animée par Benoît Brune et deviendra un ciné-conte musical. Donc en fait, avant et après la projection, Benoît Brune sera là pour voilà, vous raconter une histoire aussi avec un instrument de musique et en fait à la fois offrir un prélude et prolonger la séance, ce qui amène finalement le programme de court-métrage fait 41 minutes et du coup le 2 mai ce sera une séance de 1 heure avec 10 minutes avant, 10 minutes après de ciné-conte de Benoît Brune, pardon. On est très content de l'accueillir. Et le 2 mai et le 3 mai, pareil, à 14h, on aura deux séances de Cro-Man des studios Aardman. Alors vous allez nous dire pourquoi le Ciné-Saint-Leu repasse un vieux film de 2018. Alors déjà parce qu'on adore le studio Aardman,
bah oui,
qui eux sont connus pour Wallace et Gromit, Chicken Run, Shaun le Mouton. Et surtout parce que ces deux séances sont en partenariat avec le musée de Picardie, qui a inauguré il n'y a pas si longtemps que ça une nouvelle exposition, La Somme des Préhistoires. Donc voilà, on aura quelques séances là dans les prochaines semaines en lien avec cette exposition-là. Et ça commence du coup avec du jeune public, avec Cro-Man, qui est vraiment un film d'animation super chouette qu'on propose à partir de 6 ans, et qui change un peu des classiques, voilà, c'est Gromit, Shaun le Mouton, Chicken Run, il est un peu moins connu que les autres. Mais voilà, ça reste très amusant, donc cette histoire d'un homme des cavernes qui va essayer de sauver sa tribu d'un méchant. Et en plus, comme c'est britannique, ça parle de foot également. Donc voilà.
Oui, ils sont sportifs, les Cro-Magnons, dans ce film.
Exactement. On découvre l'invention du football dans Cro-Magnon. C'est hilarant et très, très ingénieux, très drôle. Enfin, voilà. On est très heureux de vous le proposer aussi.
J'ai vu aussi que du coup le 2 mai sort Jusqu'au bout du monde de Viggo Mortensen.
Ouais, ça on est super super content. Alors du coup, vous verrez des affiches partout avec marqué sortie nationale le 1er mai. C'est juste que nous le 1er mai, comme chaque année c'est la seule journée, on est fermé au public. D'accord. Donc voilà, on commencera à exploiter ces films-là le 2 mai. Et voilà, Jusqu'au bout du monde, nouveau film réalisé et scénarisé par Viggo Mortensen, qui avait fait déjà il y a quelques années un film qui s'appelait Falling, une histoire où il jouait finalement ce rôle d'un cinquantenaire avec une relation un peu conflictuelle avec son père. Là, il change complètement de registre avec un vrai western, comme ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu. On pense forcément à John Ford quand on voit Jusqu'au bout du monde, et où en fait, le personnage principal est tenu par Vicky Cripps, que vous connaissez, parce que quand vous verrez son visage ou son nom, ça va vous rappeler tout plein de films. Elle a été récemment dans des blockbusters tels que Les Trois Mousquetaires. Nous, on l'avait aussi vu dans Corsage ou dans encore Phantom Thread de Paul Thomas Anderson. C'est vraiment une actrice suisse qui a une vraie carrière internationale. Donc là, on est très heureux de la revoir aux côtés de Viggo Mortensen, qui joue dans le film en plus de le scénariser et de le réaliser. Et voilà, c'est vraiment une histoire d'amour tragique, un portrait de femme indépendante. On n'a pas envie de vous en parler davantage parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la bande-annonce, si jamais vous voyez la bande-annonce, fuyez-la.
Elle est trop explicite.
Un chouïa. Boris, notre directeur qui a découvert le film, je lui ai montré la bande-annonce parce que moi, j'ai pas encore eu le plaisir de le voir. Et il me dit, j'avais cette impression-là et il me l'a malheureusement confirmé que le film déflore un peu trop le film. Mais voilà, faites-nous confiance, c'est vraiment un film fort avec Viggo Mortensen, pour le coup, joue pas le rôle principal, c'est vraiment Vicky Cripps qui incarne l'histoire. Mais voilà, puis la photo est dingue, la mise en scène est super ingénieuse. Enfin, c'est un film qu'on vous conseille et qu'on est très 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 heureux de sortir en sortie nationale, parce que c'était encore une fois longtemps qu'on n'avait pas eu la chance de vous proposer un western au ciné Saint-Luc.
Le 9 mai, il y a un ciné culte.
Ouais.
Avec Le Nom de la Rose.
Complètement.
Avec Sean Connery. Oh là là, ça fait des années que j'ai pas vu ce film.
Moi aussi, j'ai hâte de le revoir parce que j'en ai un souvenir très, très flou. Mais Le Nom de la Rose, film culte, peut-être ouais. Le plus culte de Jean-Jacques Hano, réalisateur français, francophone. Avec Sean Connery, comme tu me disais, et puis Christian Slater, Michael Lansdale, Ron Perlman, Valentina Vargas. À l'époque, en 86, c'est un peu un casting 5 étoiles pour le coup.
Ouais, complètement.
Et qui en fait ressort dans une version restaurée 4K, donc ça faisait un moment que c'était disponible, on cherchait une excuse et on s'est dit quoi de mieux que Le Pont de l'Ascension pour vous emmener dans un récit d'enquête dans une abbaye bénédictine du nord de l'Italie en l'an 1327. On se dit que voilà, un petit jeudi de l'Ascension, c'était le bon prétexte pour venir au ciné Saint-Leu découvrir ou redécouvrir ce film-là. En plus adapté d'un roman complètement culte, hein. J'ai plus le nom de l'auteur devant les yeux, mais les auditeurs auditrices le sauront mieux que moi. Mais voilà, en plus adapté d'un vrai polar qui a marqué la littérature. Donc c'était aussi un enjeu quand on lit le dossier de presse de la ressortie. Jean-Jacques Hano rappelle à quel point c'est aussi une pression à l'époque d'adapter Le Nom de la Rose, puisque c'est vraiment un livre culte, best-seller. Et voilà, c'est un film qui est resté. Et puis Jean-Jacques Hano qu'on retrouvera aussi au Ciné Saint-Leu dans quelques semaines, puisqu'on aura le plaisir de vous proposer, toujours dans le cadre de la Somme de la Préhistoire, en lien avec le musée de Picardie, La Guerre du Feu. Donc voilà, peut-être aussi finalement le deuxième film le plus culte de Jean-Jacques Hano. Donc en l'espace de quelques semaines, finalement, vous pourrez voir les deux films de Jean-Jacques Hano les plus connus. Et voilà, on aime bien aussi par moment proposer ce genre de film de patrimoine en séance unique. Donc ce sera le jeudi 9 mai à 16h30 et c'est à ne pas rater.
Ah ça non. Le Nom de la Rose, il ne faut pas le rater. Il faut le voir au moins une fois.
Oui, et puis encore une fois, dans une version 4K restaurée, je pense que c'est encore plus appréciable en salle que dans son salon.
Oui, clairement. Le 8 mai, j'ai vu qu'il y avait aussi Borderline. Qu'est-ce que c'est ?
Alors ça, c'est un film complètement fou que j'ai eu la chance de voir justement, qui sort chez nous du coup le 8 mai, qu'on aura un tout petit peu en décalé. C'est un film espagnol de 1h14, où on va suivre en fait un couple qui immigre aux États-Unis. Donc elle est espagnole et lui en fait on va apprendre plus tard qu'il est hongrois si je ne dis pas de bêtises, mais en tout cas européen mais pas espagnol, et qui vont se faire contrôler à la douane des États-Unis et ils vont commencer à vivre un cauchemar, c'est-à-dire de rentrer dans une procédure administrative, ils vont être questionnés. Et c'est un vrai polar, en fait. On est vraiment tenu en haleine durant 1h14, parce que là vous avez peut-être l'impression que je vous ai raconté un peu tout le film, mais en fait, pas du tout. C'est vraiment les 5-10 premières minutes du film. Et après, on va passer toute l'heure qui suit à les suivre dans cet interrogatoire de plus en plus puissant, fort. Enfin, c'est les inspecteurs, inspectrices, les malmènent, là, vraiment, pour savoir si vraiment ils viennent pour travailler, dans quelles conditions, est-ce qu'ils sont vraiment en couple. Et en fait, ce qui est passionnant dans ce film-là, c'est qu'on va se retrouver à décortiquer un couple, mais vraiment jusqu'à la bassesse, enfin, les inspecteurs et inspectrices s'interdisent aucune question. Enfin, c'est assez malade, même dans l'écriture, de comment, couche après couche, en fait, on va toujours plus loin, toujours plus fort dans le questionnement, dans... quitte même à faire en sorte qu'ils ne soient plus en couple à la fin de l'interrogatoire. Quoi. Il y a vraiment un truc de... juste pour vérifier ça.
Démolir leurs barrières.
Complètement. Mais en fait, sur Letterboxd, j'ai mis un petit mot en sens, c'est vraiment anatomie d'un couple, enfin, c'est anatomie d'un atterrissage. Quoi. C'est vraiment le même film que Justine Triet, qui décortiquait un couple via un film de procès. Et là, finalement, c'est la même chose, mais via un système de douane. C'est comment tout d'un coup, en 1h14, puis en plus de ça, nous, on a une image d'eux au début, sans forcément qu'on imagine assez simple, d'un couple qui choisit d'émigrer pour des raisons professionnelles aux États-Unis. Et tout d'un coup, nous, on est vraiment embarqués avec eux et on a de l'empathie finalement pour eux. Et plus en plus que l'enquête avance, il y a un truc de choc, quoi, de se dire que ça peut aller à ce point-là. Or, pour vérifier des choses qui pourraient être très justes, la douane fait, entre guillemets, fait son métier. Mais il y a vraiment une critique aussi de cet espace américain post 11 septembre aussi, finalement. Parce que oui, le film, finalement, même si c'est 20 ans plus tard, c'est un pays qui est encore, et a raison, traumatisé par ces événements-là. Et en fait, toute cette politique qui est issue de cet événement-là est catastrophique, puisque voilà, on va jusqu'à en détruire des couples un peu gratuitement. Quoi. C'est assez dingo. Et c'est un film très fort. Donc voilà, ce sera à 1h14. Donc je sais pas si là je vous ai donné envie de le voir. Mais, mais c'est un film qui est très puissant. Et voilà, c'est une vraie expérience avec une vraie grammaire cinématographique, un sens du montage, du découpage. Enfin, c'est assez impressionnant.
Eh bien, merci William. Merci, si tu veux, on a encore un peu de temps. On peut parler un petit peu du documentaire de La Grotte des Rêves Perdus. Oui. Si tu veux nous toucher quelques mots dessus.
Ça, c'est une chose qui sera dans le prochain programme, mais qui va arriver très vite, puisque le prochain programme commencera au 15 mai, et que là, c'est une séance qui aura lieu le jeudi 16 mai à 18h15. Donc pareil, une autre séance qui aura lieu dans le cadre de l'exposition La Somme des Préhistoires au musée de Picardie. Donc là, un film documentaire, La Grotte des Rêves Perdus, qui en fait nous amène dans une grotte préhistorique. Donc en plus de ça, c'est réalisé par Werner Herzog. Alors peut-être que pour le grand public, Werner Herzog, ça dit pas grand-chose, mais les cinéphiles, voilà, c'est notamment Aguirre, qui est un film culte avec, j'ai oublié son prénom, mais ça va me revenir. Donc réalisateur allemand, et qui là finalement offre un documentaire d'1h30 sur cette grotte-là préhistorique, une vraie plongée finalement documentaire avec pour le coup un vrai apport historique sur ce qu'étaient ces grottes-là, sur pourquoi ces peintures et ainsi de suite. Et on aura le plaisir de recevoir Clément Paris, qui est un archéologue à l'INRAP, qui sera là à l'issue de la projection, à la fois pour vous en dire plus et aussi peut-être à répondre à des questions auxquelles le documentaire ne répondrait pas. Donc voilà, toujours en lien avec c'est des séances qu'on a appelées Ciné et Musée au Ciné Saint-Leu, et voilà, ça fera partie de ce partenariat dont on est très content. On avait déjà fait la même chose l'année dernière avec l'exposition 20 milieux sous les mers. Donc là voilà, on réitère avec La Somme des Préhistoires, qu'on a pu visiter en plus d'ailleurs. On vous encourage à aller faire un tour au musée de Picardie, découvrir cette exposition qui est encore une fois géniale, comme c'est souvent le cas au musée de Picardie.
Eh bien, merci encore à toi, William, de nous parler de ce beau programme encore une fois.
Tout de suite, à l'occasion des 150 ans de l'impressionnisme, Alice de l'atelier culture et création de l'UPJV nous propose une chronique au musée de Picardie.
Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler des 150 ans de l'impressionnisme, et à cette occasion, le musée de Picardie d'Amiens accueille exceptionnellement un tableau d'Édouard Manet. J'ai eu l'occasion d'aller le voir et je trouve intéressant justement de pouvoir inciter les personnes et de pouvoir les encourager à s'y rendre. Parce que le musée d'Amiens justement fait partie des 34 musées qui ont été retenus pour mettre en avant une œuvre justement du mouvement impressionniste. Et cette œuvre se nomme Sur la plage. Elle a été peinte par Édouard Manet en 1873 à Bercq-sur-Mer et elle sera mise en évidence dans une exposition qui est présente du 15 mars au 16 juin 2024. Et le musée de Picardie ne possède actuellement aucune œuvre impressionniste dans ses collections, donc c'est vraiment un événement exceptionnel. Et l'arrivée d'un tableau de Manet est donc un événement qui va attiré de nombreuses personnes, et je l'espère vous également. Jusqu'au 16 juin, donc, les visiteurs peuvent venir contempler sur la plage, qui est donc un tableau qui est habituellement présent au musée d'Orsay à Paris. Et dans le cadre de ce prêt qui est exceptionnel, le musée amiénois développe donc toute une série d'activités autour de ce tableau, des événements, des rencontres, où toutes les personnes peuvent venir justement pour découvrir d'un peu plus près ce tableau et découvrir son histoire. Et donc, cela donne également la possibilité donc, aux personnes de pouvoir contempler, de pouvoir admirer une œuvre qui est normalement présente au sein donc, d'un musée parisien, qui peut être éloigné donc, de nombreuses personnes. Ce n'est pas accessible à tout le monde. Et cela permet donc une certaine démocratisation et une ouverture à la culture visant un public beaucoup plus large et qui permet à tous les Amiénois et à toutes les Amiénoises de pouvoir contempler ce beau tableau, justement.
Je vous propose maintenant d'écouter le deuxième épisode de la nouvelle série sportive « Comment Amiens se prépare aux Jeux Olympiques » réalisée par les étudiants en master de journalisme à l'UPJV.
Entendez-vous dans vos écrans ? Notez ces intenses émotions qui viennent jusque sur vos bras. Émouvoir vos fils. Vos compagnes. Aux jeux, citoyens.
Dans ce deuxième numéro de notre podcast, nous retrouvons Tiffaine Mochamp, jeune athlète picarde, et Thibaut Denis, entraîneur et directeur technique de l'ASC Judo à Amiens. Ils nous donneront leur point de vue sur les JO et ce que cette compétition peut représenter pour les jeunes athlètes. Bonjour Tiffaine, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième épisode de notre podcast.
Bonjour. Bonjour.
Pour recontextualiser, Tiffaine, votre cas est assez particulier. Vous vous êtes blessée en juillet 2023 lors des championnats d'Europe d'athlétisme et vous nous avez confié dans le précédent épisode que vous ne vous attendiez pas à ça. Les médecins vous ont prescrit plusieurs opérations et de longs mois de rééducation. Aujourd'hui, il est assez difficile pour vous d'appréhender les JO puisque vous ne savez pas encore si vous serez remise d'ici là. Vous nous aviez également confié que les Jeux Olympiques étaient un rêve pour vous, mais qu'aujourd'hui, il faut voir plus loin. Votre blessure a pu vous permettre d'avoir un avis plus extérieur et peut-être plus réaliste de la situation. Et première question, les JO continuent-ils aujourd'hui de faire rêver les jeunes sportifs ?
Même si je n'arriverai peut-être pas à aller aux JO, je pense qu'il n'y a pas que ça. Au niveau de l'athlétisme, on a plein de championnats. Et les JO, c'est surtout énormément médiatisé et vu par
le public peut-être ou
oui,
le...
voilà, c'est l'événement que le grand public regarde. Et finalement, les championnats du monde, les championnats d'Europe, pour une sportive, c'est tout aussi important. Et pour le grand public, moins. Donc c'est plus cette notion-là qui est un peu difficile à s'en détacher parce que... Ah ouais, faire les JO, ce sera peut-être pas l'occasion du siècle pour moi de me montrer sous mon meilleur jour. Mais en tout cas, j'essaierai de faire mon possible pour y être au championnat du monde l'année d'après et championnat d'Europe encore l'année. Donc une carrière de sportif, ça se résume pas qu'à un championnat.
Oui, bien sûr. Eh bien, merci Tiffaine pour votre intervention. Bonjour Thibaut, je me tourne désormais vers vous. Vous êtes directeur technique de l'ASC Judo à Amiens, mais aussi entraîneur de futurs athlètes. On sait que le judo est une discipline appréciée des Français, puisqu'elle nous rapporte souvent des médailles lors des Jeux Olympiques. Donc comme nous le confirme Thibaut avec un petit hochement de tête, ce sport fait son apparition aux Jeux Olympiques de Tokyo en 1964 et depuis n'a jamais quitté le programme. Aujourd'hui, le judo est globalement dominé par le Japon, qui a remporté 96 médailles, suivi par la France, qui en a obtenu 57. Donc on a quand même un vivier assez énorme de judokas en France. Donc bien évidemment, en termes de champion français, on ne peut pas s'empêcher de penser à Teddy Riner, qui a donc été champion en 2012 au JO de Londres et 2016 au JO de Rio, dans la catégorie des plus de 100 kilos, et à Clarisse Agbenenu, qui a été, elle, championne du monde en 2021 lors des JO du Japon. Alors Thibaut, connaissant l'importance du judo pour les athlètes français et leurs spectateurs, quel est votre avis sur les Jeux Olympiques concernant le judo, justement ?
Alors, le judo, vous savez que c'est l'un des pourvoyeurs principaux de médailles pour la France. Donc, on espère que ça va être la même chose cette année. L'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2021, à Tokyo, ils avaient 8 médailles. Le président de la fédération, Stéphane Nomis, a donné comme objectif 10 médailles, ce qui va être dur. En plus, les Japonais, je pense qu'ils vont vouloir nous battre, qu'on les avait battus ou par équipe l'année dernière. Donc, moi, je suis super content. On va essayer d'aller le voir. J'ai quelques places, mais même si ça coûte un peu cher. On n'a pas eu de place, nous, en tant que judoka, c'est dommage. Donc, on va y aller. Et puis, je pense que si le judo cartonne comme d'habitude, comme c'est en France, comme ça sera encore plus suivi que d'habitude, je pense qu'il y aura des répercussions au niveau de la Fédé, donc de tous les clubs, et y compris l'ASC, j'espère.
Eh bien, merci Thibaut pour votre analyse. Nous vous retrouverons dans le troisième épisode de notre podcast, puisque vous reviendrez sur les bienfaits que pourront avoir les Jeux Olympiques sur votre club labellisé Terre de Jeux. Que ce soit pour les athlètes ou pour les clubs Picard, les JO restent un objectif accessible mais qui demande encore beaucoup de travail. D'autres sportifs amiénois que nous avons pu rencontrer nous ont confié que les Jeux Olympiques étaient un rêve et que les qualifications n'étaient pas encore terminées. Avant de penser médailles, les amiénois préfèrent se concentrer sur les compétitions à venir qui leur permettront de concourir à Paris et peut-être d'avoir une chance de remporter une médaille.
Vous venez d'écouter le deuxième épisode de la série sportive « Comment Amiens se prépare aux Jeux Olympiques » réalisé par les étudiants en Master 2 Journalisme à l'UPJV. C'est déjà la fin de cette émission. Aujourd'hui, je vous propose de la terminer en musique avec le titre « Gauche » de Jamie XX.
Yes, you came massive. Yes, you came massive.